c'est assez difficile de vendre une station de radio. C'est plus compliqué qu'on le pense. Pour la bonne raison, le poste de radio appartient à l'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. Puisque l'État, c'est vous et l'État, c'est moi, je ne peux pas vous le vendre. Puisque ça nous appartient. Donc, je vais vous le donner. Et je vous le donnerai gratuitement. Car c'est très, très difficile de vendre une station de radio.
Un peu particulière puisqu'elle sera entièrement consacrée à notre rédacteur en chef invité, Nicolas Claus, qui présente une installation baptisée White Vibes à City Sonics. Nicolas Claus.
Nicolas Claus utilise les techniques numériques, ses tableaux visuels et sonores, ses installations génératives et interactives. Un univers fait de superposition de textures et de temps dans son mail, peinture, photographie, vidéo, paroles, son et algorithme.
Voilà, c'était la biographie chantée de Nicolas Claus par Anne Laplantine, une artiste qui fait partie de l'équipe de Pop Sonics Radio, Radio Création Éphémère. Bonjour Nicolas Claus, une réaction à cette présentation par Anne Laplantine ?
Alors, bonsoir Mathieu, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas du tout écouté ça avant. Dans la réaction, c'est que c'est juste étrange d'entendre son parcours résumé une petite chansonnette qui est bien jolie ma foi.
Bon, alors vous nous avez préparé, vous aussi, quelques petites choses qu'on va écouter tout au long de cette émission. Et on va commencer par Anna.
Bonjour, Mons. Bonjour, Citixenix. Bonjour, les arts sonores. Bonjour, les artistes numériques. Bonjour, les fous. C'est une installation de tonton Nicolas Claus. J'ai entendu un bruit. Encore un bruit. Ah, la joie du noir. Ce n'est pas un film. Wow, attends. Je regardais des tableaux interactifs, un tableau interactif, et ben c'est une souris qui fait bouger le tableau. Et après le tableau il bouge. Je jouais avec le tableau et le tableau jouait avec moi.
Thank you. Donc voilà, c'était Anna, et c'est vous le tonton artiste dont elle parle. Donc c'est vous qui faites ces installations interactives et ces tableaux qui bougent. Alors vous les qualifiez de tableaux interactifs. J'aimerais pour commencer que vous explicitiez un peu ce terme pour nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est un tableau interactif ?
Alors justement, j'ai demandé à Anna, qui a été voir une installation au Métallo le mois dernier, Ornotte Toupie en l'occurrence, je lui ai demandé de m'expliquer un peu ce qu'elle avait vu et de savoir comment elle comprenait mon travail. Donc elle a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Donc cette histoire de tableau interactif, je crois qu'elle explique assez bien. C'est un tableau avec lequel je joue et qui joue avec moi. Et je crois qu'elle parle aussi de la souris. Donc c'est un tableau qu'on manipule, alors en l'occurrence avec une souris. On y reviendra, je pense. Oui. Le mot tableau, il vient évidemment, c'est une référence à la peinture, même si on trouve ce terme dans d'autres disciplines. Donc je pense qu'on va expliquer tout ça, mais je viens de la peinture.
Oui, c'est ça. En fait, vous avez commencé par peindre pendant une douzaine d'années, et puis il y a eu un changement radical à la fin des années 90. Vous avez complètement abandonné la pratique classique de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a provoqué ce changement, ce passage aux arts numériques, entre guillemets ? Je ne sais pas si c'est un terme qui vous convient.
Alors, par rapport au terme, tous les termes me conviennent et ne me conviennent pas à la fois. Enfin, je ne vais pas refaire ce discours toujours sur l'histoire des étiquettes. Pour moi, l'art numérique, les arts numériques, ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être, en utilisant des nouvelles technologies, les nouveaux outils, j'ai l'impression d'être plus proche d'un peintre dans le sens traditionnel que d'un, par exemple, un chorégraphe qui va utiliser des capteurs dans son spectacle. Et pourtant on nous réunit dans ce chapeau art numérique. Bon, bref, la parenthèse un peu longue est refermée. Oui, donc comment je suis arrivé au tableau interactif ? Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé simplement qu'après une quinzaine d'années à faire des toiles qui étaient plutôt, alors je peux en dire deux mots, c'était un travail plutôt axé sur la matière, superposition de couches, travail de texture, une matière malmenée, maltraitée, qui révèle ces couches successives. Je me suis posé une question à un moment donné, je n'y arrivais plus, quoi. Ça devenait trop compliqué, trop long. Il y a eu plein de raisons. Le fait aussi de se retrouver dans ce schéma, une toile qui va être exposée, vendue, qui va se retrouver je ne sais où, dans un salon. Enfin, ça me perturbait un peu. J'avais l'impression d'avoir fait le tour à mon niveau. Et j'avais le sentiment de ne rien inventer en réalité. Donc c'était parfait pour m'exprimer, ça fonctionnait de ce point de vue-là, mais quelque part j'étais pas très satisfait du point de vue de l'innovation. J'avais l'impression qu'on ne pouvait plus dire grand-chose avec la peinture en l'an 2000. Bon, bien évidemment ce n'est pas vrai, il y a des peintres qui font des choses formidables, mais moi c'était la limite. Et alors je me suis demandé ce que je pouvais... Quel médium, quel nouveau support je pouvais utiliser, quels nouveaux outils. Et puis là, je me suis souvenu que quand j'avais une quinzaine d'années, je m'amusais. Alors à l'époque, on faisait du basique avec un petit MO5 ou un TO7 de Thomson. Petite pub, hop. Et puis, je me suis dit, peut-être c'est un outil intéressant. En même temps, je n'y connaissais rien, parce que je n'avais pas touché depuis des années. Et c'est une intuition. Donc je me suis inscrit dans une université à Paris 8, histoire d'apprendre un peu le béaba. Finalement, c'était une formation sur la 3D. Je me suis vite aperçu que je ne connaissais pas, mais je me suis aperçu très vite que ça ne me correspondait pas. Et puis il y a eu la rencontre en fait avec un logiciel. Voilà, c'est un peu parti de ça. Alors autre coup de pub, c'est un logiciel qui s'appelle Director, qui est un peu désuet aujourd'hui, qu'on n'utilise plus beaucoup. Enfin, encore les artistes comme Antoine Schmidt qui l'utilisent beaucoup, bien sûr. Mais j'ai vu tout de suite une proximité entre ma façon de peindre et ce que me permettait cet outil. C'est-à-dire de travailler, faire un travail sur les couches, de travailler sur les modes de transparence et d'amener dans l'écran, qui est plutôt froid, de ramener de la matière, de la texture. Voilà. Et puis très vite, je me suis aperçu que ces objets que je fabriquais, que j'ai appelés tableaux interactifs, je me suis aperçu que je pouvais les mettre, enfin techniquement, c'était possible de les mettre en ligne. Et les choses ont commencé comme ça, quoi, à créer ces objets. Enfin voilà.
Et donc l'installation que vous présentez ici, ben justement, elle est assez emblématique de ce que vous venez de dire. Elle s'appelle White Vibes. Donc c'est trois écrans sur lesquels on intervient avec une souris. Et justement, c'est une installation qui est très plastique, avec beaucoup de surimpression, des transparences. Il y a même certaines plages sur lesquelles on, certains moments où on peut dessiner, dessiner à l'écran. Elle est dans le cadre d'une série qui est toujours en cours, que vous avez débuté en 2001, qui s'appelle Flying Puppet. Qu'est-ce que c'est l'esprit de cette série Flying Puppet ?
Flying Puppet, en réalité, c'est une collection de tableaux interactifs, tout simplement. Alors, c'est un... Donc, c'est le nom d'un site, hein, flyingpuppet.com. Et puis, c'est le nom de cette série. Donc, c'est un lieu virtuel où je montre mon travail. Mais en réalité, ces tableaux que je montre sur Internet, je les montre aussi en cadre, dans le cadre d'exposition. Donc, je joue un peu sur tous les tableaux. C'est-à-dire que je m'offre une visibilité avec Internet en rendant disponible ce travail. Et en même temps, quand je l'expose dans des conditions que je maîtrise plus que ce que va voir l'internaute à la maison. Mais ce sont les mêmes objets, en fait. Et donc, dans Flying Puppet, ça a été aussi un endroit de collaboration. J'ai demandé à plusieurs musiciens de composer de la musique donc interactive, de fabriquer ensemble de la musique pour voilà pour ces tableaux.
Alors on va en avoir un aperçu de cette installation tout de suite. Donc voilà, on vient d'entendre un aperçu sonore de White Vibes, de l'installation que vous présentez, Nicolas Claus, à CitySonics. Donc vous faites des œuvres interactives, mais l'interactivité de vos œuvres, elle n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on peut voir, tous les débordements technologiques qui sont associés généralement à ce type de travaux. Vous refusez les interfaces, les signes, les boutons parasites. L'objet principal, en fait, c'est la souris. On caresse vos œuvres avec une souris. Pourquoi ce parti pris ?
Je crois que vous avez dit le mot magique, l'histoire de caresser l'image. Donc, ce qui m'intéresse avec la souris, c'est que, bon, en dehors de son côté un peu archaïque, ce qui m'intéresse, c'est que c'est devenu un objet invisible. Voilà, on l'a tous une souris, je ne sais pas combien d'heures par jour sous la main, on ne s'en rend même plus compte. C'est le prolongement du bras. Ça ne mobilise pas le corps. Parce que pour mon travail, je ne suis pas très intéressé par les dispositifs gesticulatoires. Voilà, il faut danser pour faire bouger les choses ou déclencher des sons. Donc ça m'intéresse de ne pas impliquer le spectateur plus que ça physiquement, mais lui permettre quand même avec ce geste de pouvoir caresser l'image, d'avoir une certaine sensualité, je dirais, dans le geste, dans le mouvement. Et c'est ce qui m'intéresse avec cette souris. Voilà.
Et donc ce principe-là, vous le disiez tout à l'heure, vous faites des installations immersives, mais vous développez aussi des doubles, on peut les appeler comme ça, peut-être des doubles de vos œuvres en ligne, où on retrouve ce même principe de souris. Et donc vous avez choisi de naviguer un peu sur les différentes œuvres qui sont visibles en ligne, donc sur votre site flyingpuppet.com. Donc on va commencer peut-être par Side Effects.
Alors Side Effects, c'est une pièce qui m'a été commandée l'an dernier, c'est ça, en 2008, par un collectif de Toronto qui avait demandé à deux artistes français, donc le second c'était Grégory Chatonsky, et deux artistes canadiens, donc c'est une commande, hein, sur le thème du nerf vague, vagus nerve. Et donc voilà, donc j'ai joué le jeu, je me suis renseigné qu'est-ce que c'est que ce nerf vague, je me suis aperçu qu'en fait c'est un nerf qui intervient dans la régulation de l'humeur, on va dire, dans le système nerveux, et qui a une place importante aussi dans les phénomènes de dépression ou d'épilepsie. Et puis en creusant comme ça ma recherche, je suis tombé sur une société américaine que je vais citer, qui s'appelle le produit qu'ils ont développé s'appelle le VNS, Vagus Nerve System, Stimulation, pardon. Et en réalité, ils vendent des petits appareils sous-cutanés qui vont stimuler ce nerf vague pour lutter contre les cas de dépression sévère ou d'épilepsie. Alors je dis ça parce que c'est en anglais le texte qu'on entend, donc j'explique un peu. Et je suis tombé sur une téléconférence de cette société américaine qui parle de cette technologie et qui ne parle en réalité que d'argent, de rendement, d'objectifs trimestriels, puisque les objectifs sont trimestriels dans l'industrie. Et j'ai posé la question simplement, est-ce que toute cette technologie, cette histoire d'argent, de rendement, est-ce que c'est pas ça qui nous rend dépressifs? Donc ces gens qui essaient de nous guérir la dépression, est-ce qu'ils sont pas en train de nous en mettre une couche de plus pour nous déprimer? Donc maintenant je passe la parole à mon tableau, Side Effects.
Where do you feel you are in terms of the efficiency of the sales force? I know it required, you know, a decent amount of almost retraining of the sales force, going back to neurologists rather than psychiatrists.
And also keep in mind that this technology can be life-changing for thousands of patients who don't have another good option.
We also made significant progress in reducing the rate of expenditure on marketing activity.
The third strategic priority is around right-sizing our efforts against the exciting TRD business opportunity.
We also made significant progress. Donc c'est Side Effects. Alors on va décrire un petit peu ce qu'on voit à l'écran sur ce tableau interactif. Donc il y a des espèces de planches d'anatomie. On voit des poupons qui se déplacent. Et donc ce nerf vague.
Oui, alors, donc effectivement, on voit des illustrations de cet appareil là qui s'appelle le VNS. On voit des bébés aussi, des petits baigneurs qui se trimballent comme ça, qui sont un peu perdus dans l'espace. Il y en a un qui apparaît de temps en temps quand on sort du cadre avec la souris, qui est dans une cage enfermée. Alors évidemment, les choses sont un peu confuses, un peu mélangées. On est plus dans la poésie. Enfin, les choses ne sont pas expliquées de façon directe. Et puis un travail aussi sur la matière, la superposition.
Mais toujours ces effets de transparence, de superposition, ces matières qui se créent quand un objet passe sur l'autre, qui est très caractéristique de votre pratique. Hein.
Voilà, alors dans la matière, on aperçoit aussi... On le devine ou pas, on aperçoit un billet, un dollar, voilà, sous toutes les facettes.
Alors la particularité de toutes vos œuvres, c'est que l'aléatoire tient une place très importante. Rien n'est jamais figé. Lorsqu'on revoit l'une de vos œuvres ou lorsqu'on la rejoue, j'ai envie de dire, quand on est en ligne, l'expérience n'est jamais la même. Les sons, les images, tout change. Est-ce que c'est ça, fondamentalement, la force de l'art numérique ?
Bah, disons que alors l'art numérique, on va partir sur ce terme. Oui, non, mais l'art numérique, en tous les cas, ces outils, ils permettent un tas de choses. Donc, c'est certain qu'on peut utiliser enfin, imaginez bien que de passer de la peinture à des objets où d'un seul coup on a de la vidéo, on a du son, on a de l'interactivité. Voilà, moi je ne suis pas vidéaste à la base, donc je le fais parce que ça a été possible à un moment donné. Et je dirais que l'histoire de l'interactivité, ça a été un peu la même chose. Alors aujourd'hui, peut-être que je l'assume plus, je l'ai peut-être fait un peu sans comprendre au début parce que c'était possible. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est que les choses ne soient pas figées, c'est exactement ce que vous avez dit, qu'on n'ait pas toujours la même lecture d'une œuvre. Et puis aussi, c'est une façon de, même si c'est interactif, comme disait ma nièce Anna, je joue avec le tableau, mais le tableau joue avec moi. Il y a toujours aussi cette frustration que ce qu'on a sous les yeux apparaît, disparaît, change de forme et qu'on ne peut jamais vraiment le figer et qu'on ne sait jamais exactement ce qu'on va avoir sous les yeux. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans l'aléatoire. Ensuite, pour compléter ça, cette histoire d'aléatoire, elle m'intéresse aussi dans la possibilité de confronter des images et des sons entre eux et sans prévoir cette collision et donc forcément de déboucher sur des sens inédits, sur des combinaisons que je n'aurais pas imaginées et qui ouvrent encore plus l'imagination et les possibilités.
De la surprise donc aussi.
Voilà, donc je vais peut-être en mettre un autre.
On a le choix. peut-être Look at Me.
Look at Me. Alors Look at Me, c'est encore une commande aussi. Je suis un peu gêné parce que c'est une université anglaise, mais j'ai complètement oublié laquelle. Ça remonte quand même à 5 ans. Voilà. Et là, je crois que c'était qu'il n'y avait pas de thème particulier. Donc Look at Me. Oui, Look at Me, c'est un autre tableau interactif qui est où la musique est vraiment interactive, je crois. Alors, je vais la jouer un petit peu, puis je vais peut-être commenter ensuite. En fait, je suis parti d'une photo de classe, d'un ensemble de photos de classe d'une classe australienne d'une amie. Donc, ils sont tous en uniforme. C'est un peu ce qui m'a intéressé. Et donc, ça parle un peu de cette envie d'être comme les autres, mais d'être différent. Donc, tous ces gens crient Look at Me. Et en fait, à un moment donné de ce tableau, quand on passe sur ces photos, on déclenche un tas de noms qui viennent s'afficher à l'écran. Et en réalité, c'est une base de données qui s'appelle 1300 Net Artists, je crois. Et donc, il y a tous ces noms et prénoms d'artistes du web qui sont là et qui crient « Look at me », comme moi, voilà. Très bien.
Donc voilà, donc là, vous avez travaillé à partir d'une photo de classe. Et c'est vrai que le travail auprès de différents publics tient une grande place. Chez vous, l'interactivité, c'est pas juste un mot, c'est quelque chose que vous pratiquez, et notamment par le biais de résidence. Donc on va téléphoner à un jeune homme, Alan, avec qui vous avez travaillé sur un projet qui s'appelle Un Palpitant, qui est un projet qui date de 2006.
Allô.
Allô, Alan.
Oui, salut.
Salut, c'est Nicolas, ça va?
Oui, et toi?
Ouais, super. Écoute, je t'appelle. Tu sais que je suis en Belgique, là. Je
t'appelle,
je fais une émission pour Poptronix qui devient Popsonix.
Ouais,
et puis, donc, on a une heure et on m'a demandé si je voulais contacter des gens pour qu'ils parlent un peu de, bah voilà, de mon boulot, enfin, des gens qui me connaissent, et j'ai pensé à toi. Je voulais pas prendre un artiste, okay. Donc je voulais te prendre toi. Donc, bah, plutôt que te présenter, je voulais que tu te présentes toi, et puis, puis que tu racontes un petit peu comment on a pu travailler ensemble. Enfin, voilà, quoi.
Ok. Donc, alors, en fait, moi, je suis plutôt, à la base, donc, on s'est rencontrés au Mans. À l'ESPAL, donc c'était un centre culturel, c'est ça. Et à la base, moi j'étais plutôt passionné de cinéma. Quand on m'avait présenté le projet, je pensais que tu étais un réalisateur de films. En fait, il y avait un malentendu. Et après, bon, j'ai découvert ton travail, ce que tu faisais, donc de l'art multimédia. Et c'est là qu'on a commencé à travailler à partir d'un projet qui était un palpitant.
Et à l'époque, tu avais quel âge?
J'avais 15 ans. T'avais J'avais 15 pas encore 3 ans. J'avais 15 ans et demi.
Pas la voix d'aujourd'hui, ouais. Ouais.
Non, non, bah sûrement pas, ça m'étonne. Et du coup, voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et bah, c'était sur le projet Un palpitant. Voilà.
Voilà, alors écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu gardes de ce. Enfin, ce qu'il faut le dire aussi, c'est que depuis, on a fait un autre projet ensemble.
Ouais. Bah, qui était peut-être un peu moins. Auquel j'ai peut-être un peu moins participé.
Eh oui, parce que maintenant, tu es un grand
dernier appel.
T'as 19 ouais, ans et t'es à l'université et puis t'as plus le temps de venir t'amuser avec nous comme on le faisait.
Exactement.
Mais je sais pas, peut-être que tu peux parler d'un palpitant alors de voilà ce que t'as vécu, ce que tu as fait.
Bah alors un palpitant c'était c'était une découverte au niveau de déjà de ce que tu faisais en termes de résultats finaux, enfin de l'art multimédia. Donc après c'était une méthode de travail qui était assez une découverte totale quoi. Où tu prenais, au début, tu t'adaptais un peu à un groupe de jeunes que tu avais, tu les connaissais pas forcément, enfin, il y en avait que tu connaissais, mais en tout cas, tu ne connaissais pas. Et alors, ce qui était bien, c'était qu'au début, tu étais capable de faire des ateliers de création d'images, ou je sais pas, où on filmait, où on s'enregistrait pas encore à ce moment-là, où là, c'était un peu tout le monde qui travaillait, et après, tu étais capable aussi de prendre séparément chaque jeune ou par groupe de deux, comme tu le sentais un peu, pour aller vers différentes directions. Et nous, on savait absolument pas où on... Enfin, il me semble qu'on savait pas trop où on allait. Et ce qui était intéressant, c'est que petit à petit, il y avait des lignes qui se dessinaient. On était parti sur un sujet qui était l'amour, à la base, interroger des vieilles personnes pour parler d'amour. Et au final, on a quand même énormément parlé de la vieillesse et de la mort en même temps. Donc c'était... De ce côté-là, c'est intéressant.
Et ça, tu le savais, sur ce projet un palpitant, donc l'amour et la mort, tu... Ouais. Je vous avais dit dès le début que ça allait parler de la mort, non?
Non, 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 ouais, je pense pas. Non, franchement, il me semble que c'était au début, c'était parlez-moi d'amour dans le projet, je crois. Et on allait surtout parler des différences de relations un peu amoureuses entre le... C'était à travers le temps, vu qu'on allait interroger des personnes âgées. Et notre vision, et sûrement la vision qu'en avaient les jeunes aujourd'hui, c'était ça la confrontation que tu cherchais. Et après, ça a quand même pas mal bifurqué sur la mort et la vieillesse. C'était des questions vraiment hyper intéressantes. Enfin, surtout quand c'était des personnes âgées qui nous ont parlé.
D'accord. Donc en fait, ce que je comprends en t'entendant là, c'est que je vous ai un petit peu roulé dans la farine, parce que moi, je le savais dès le début que je voulais parler de l'amour et de la mort.
Mais c'est un peu ça, en fait.
Donc je sais que les personnes âgées, comme tu dis... J'allais pas leur dire, papy, mamie, on va parler de, vous allez bientôt mourir, comment ça se passe, mais je pensais que vous étiez un peu plus au courant.
On s'en doutait un peu. Ou alors c'est moi qui me souviens mal, alors ça rien, mais. En fait, ce qui était délicat, c'est qu'on partait en interview avec des personnes âgées en maison de retraite. À mon avis, ce qui était délicat, c'est qu'on n'était pas sûr d'en parler, de ça. Enfin, je veux dire, peut-être tout le monde n'a pas forcément envie d'en parler. Enfin, moi, c'était de ce point de vue-là, je pense qu'on n'était pas au courant, ou alors on n'était pas sûr qu'on allait en parler. De la mort et de la vieillesse, parce que c'est peut-être délicat d'en parler. Surtout nous, qui étions jeunes, on ne savait pas trop comment s'y prendre, je pense. Mais bon, c'était quand même pas mal toi qui orientais les interviews. Et nous, après, petit à petit, on trouvait des questions à poser qui nous tenaient à cœur. Et, en tout cas, l'échange était très réel entre les personnes âgées et nous sur ce projet-là.
Et pour finir, parce qu'on fait court, tu sais.
Oui.
Pour finir, il y a quelque chose qui t'a marqué plus que le reste. Enfin, ce projet, tu en gardes quelque chose de précis.
Moi, j'ai retenu beaucoup de leçons de ce qu'on faisait. C'était que quand on avait un, enfin, c'est plus je vais retenir deux choses. Plus du domaine général d'un projet artistique quel qu'il soit, c'est que dès qu'on a un prétexte, par exemple, quand on tenait un micro dans l'idée que si on a le prétexte du projet artistique, on peut à peu près faire ce qu'on veut, et on peut aller chercher beaucoup de choses chez les gens, vu que comme on est dans un monde où on rencontre quand même pas beaucoup les gens dans la rue qu'on connaît pas, avec un projet artistique comme le tien, on avait le prétexte idéal pour aller parler à des tas et des tas de gens, et ça c'était génial de découvrir des gens, des personnes âgées par exemple, et ça marche. Un prétexte, ça marche pour n'importe quoi, pour n'importe quel autre projet, que ce soit du cinéma, de la musique ou autre. L'autre chose que j'ai retenue, c'était bien évidemment la rencontre avec les personnes âgées, c'était assez fort quand même.
Ouais.
Alors, certaines choses qu'elles
nous racontent. En train de nous raconter que l'art, c'est un prétexte, quoi. Ben, on va arrêter là-dessus. Moi, ça me va bien, ça.
D'accord. Non, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était assez... Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu, et depuis, dès que j'ai une petite idée pour un projet, un prétexte, on peut aller vers les gens assez facilement, et après, peut-être trouver les bonnes personnes.
Parce que, en fait, cette histoire d'aller vers les gens, maintenant, tu le fais un peu avec le cinéma, c'est ça
c'est exactement ça, en fait, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, et du coup, le courant passe plus vite avec les gens. Alors que si on n'ose pas trop, on peut pas faire trop grand-chose, et on va pas très loin, alors que... Avec un prétexte, on peut. Enfin, je me rappelle, on avait fait des interviews d'écrivains, en fait, c'était ça. C'était ce jour-là que tu m'avais dit, vous avez un micro, alors vous avez un prétexte, alors allez-y, foncez. Et on avait posé énormément de questions.
Ouais, c'était, je me souviens de ça, ouais.
C'était ce jour-là, en fait. Et okay. Moi, ça, bon, c'est
pas ça. Bon, Alan, écoute, tu sais, moi, je vais te rappeler plus tard, peut-être on en parlera tous les deux, mais là, on va s'arrêter.
Oui, bien sûr.
Bah, écoute, merci beaucoup, puis bon courage pour ton film là, d'étudiant que tu es en train de finir, je crois.
Ok. J'ai fini le tournoi.
Bon, on se voit bientôt au Mans, de toute façon.
À bientôt, ouais.
Allez,
au revoir.
Merci.
Voilà, Alan, avec qui vous avez travaillé sur Un palpitant en 2006. Est-ce que vous souscrivez à ce qu'il vient de dire? L'art, c'est un prétexte à des rencontres?
Certainement, en tous les cas, ça l'est dans mon cas. Enfin, je pense que ce n'est pas qu'un prétexte, bien évidemment. Mais ce qui est formidable quand on est artiste et puis qu'on embarque des gens dans un projet artistique, c'est que d'un seul coup, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On a le droit d'avoir l'air ridicule, on a le droit de se mettre en danger. On a cette excuse, je pourrais dire. On fait de l'art, donc on a le droit de faire ça. Et du coup, on se lâche et on peut faire des choses formidables.
Oui, parce qu'en fait, vous travaillez beaucoup donc, au contact d'adolescents, de personnes âgées, comme il expliquait. Vous les intégrez complètement à la confection de l'œuvre, en recueillant leurs témoignages, en leur demandant d'amener des objets que vous allez ensuite réutiliser dans l'œuvre finale. Et donc, Un palpitant, ça s'est passé au Mans, je crois.
Oui, alors Un palpitant, c'est la deuxième résidence que j'ai faite à l'Espal, qui est un centre culturel, scène conventionnée, plutôt axé sur la danse contemporaine et le théâtre. Et donc avec laquelle je travaille depuis bientôt 5 ans sur différents projets. Donc on a commencé par faire un projet qui s'appelle De l'art si je veux, où avec un groupe d'adolescents, alors c'est, petite parenthèse, ce centre est implanté dans un quartier type HLM, quartier qu'on appelle difficile, bon je sais pas s'il l'est vraiment, mais en tous les cas c'est dans la cité, et il y a un travail qui se fait avec les gens du quartier, voilà. Et là, j'ai fait un premier travail où ces jeunes parlaient d'art contemporain. Voilà. Ça s'appelle De l'art si je veux, je vais peut-être passer un extrait. Et puis, 2 ans plus tard, on a fait ce projet Un palpitant où Harry Rosneau, le directeur de l'Espal, m'a demandé sur quoi je voulais travailler. Et sans trop y réfléchir, je lui ai dit très spontanément, écoute, s'il fallait vraiment choisir un sujet, sa chose intéressante finalement, c'est l'amour et la mort. Donc, je suis parti sur ce projet avec l'idée avec un groupe d'adolescents, d'aller rencontrer des personnes âgées, très âgées même, parfois dans des conditions assez difficiles, pour leur parler un peu de l'amour et puis progressivement de la vieillesse, de la mort et voilà.
On va peut-être écouter un extrait. On commence par, on va être chronologique. On va commencer par De l'art si je veux.
Alors je vais. Voilà. Donc De l'art si je veux, en fait, c'est un travail en 9 tableaux interactifs. C'est d'abord un travail en ligne, et ensuite ça a donné lieu à un ensemble d'installations, une exposition réunissant plusieurs installations. Et pour chaque tableau, on a travaillé sur un artiste ou plusieurs artistes. Donc là, je voudrais mettre voilà, un tableau qui parle, qui s'inspire un peu de Ben, où les gamins parlent très librement de enfin, nous communiquent leurs réflexions après plusieurs mois d'immersion dans l'art contemporain. Voilà, ça commence avec une espèce de point d'interrogation qui se forme et déforme et qui dit « Tout le monde peut mettre une roue sur un tabouret, tout un programme. »
Ben écrivait des phrases sur l'art. Et puis bah, nous, on s'est inspiré de lui, on a écrit qu'est-ce qu'on pensait de l'art, nous aussi.
Dao a écrit. Mais là, art cinétique.
De créer des émotions, de faire parler, de se faire écouter, de se faire entendre, de se faire comprendre, d'expliquer ce qu'on pouvait pas dire avant, d'exprimer ce qu'on a au fond du cœur, même au fond de la tête, de faire passer les sentiments.
C'est pas un artiste, quand il fait quelque chose, c'est dans son sens. Il pense pas tout de suite à l'argent, il pense d'abord à ce qu'il va construire, à ce qu'il va réfléchir et tout, c'est dans son sens. Hein.
Pourquoi il veut le faire exposer? C'est pour être connu, c'est bien pour avoir de l'argent.
Il expose pour que les gens ils se tapent des films ou des trucs comme ça, c'est pas forcément pour l'argent.
Si quelqu'un me dit ouais, c'est pas de l'art, c'est pourri ce qu'ils font et tout, moi je leur dirais, attends, parce que même toi aussi, t'es un artiste. Après, ils me diraient, pourquoi je suis un artiste? Alors moi, je lui répondrais, tu connais Armand? C'est un artiste qui fait des accumulations de choses. Alors là, t'es en train de faire des accumulations de mots, d'accumulations de pas. Ça, c'est de l'art.
Donc voilà, un extrait de l'art, si je veux. Réalisé lors d'une résidence à l'Espal au Mans. On va maintenant passer à une pièce plus récente qui s'appelle Ornod Toupi, qui date de 2007 et qui a trouvé une extension, je ne sais pas comment on peut qualifier.
Oui, alors en fait, il y a deux projets. Il y a un projet qui s'appelle Ornod Toupi, un projet Kelvin Lameau, une œuvre qui s'appelle Ornod Toupi, qui est une installation. Alors cette fois-ci, c'est une installation immersive, mais qui n'est pas du tout interactive. En fait, ça correspond à un moment de ma réflexion où je me dis que si je veux travailler sur l'immersion, c'est peut-être plus intéressant de ne pas perturber le spectateur avec un dispositif interactif, mais l'immerger vraiment dans un flot d'images et de sons. Donc c'est le cas de cette installation. Je vais mettre un petit extrait. Et l'autre projet s'appelle Ornod Toupi Suite, au pluriel. Et en réalité, c'est une commande d'Arte Cinéma, pour Arte TV, et quand ils m'ont demandé de faire un projet pour eux, j'ai pensé à partir du même matériau, créer deux œuvres voisines. Et donc ce travail, je précise quand même, ce travail était fait dans le cadre d'une résidence, alors je crois qu'ils appellent ça une résidence étoilée, parce que ça s'est fait sur 5 ou 6 lieux en PACA. Ça a été mené principalement par les gens de la friche La Belle de Mai, et en particulier le Zinc, et puis sur différents lieux comme ça, à Aix-en-Provence, jusqu'à une MJC à Apt, un petit village, enfin il y a eu plein de lieux comme ça, et j'ai rencontré une centaine de personnes, dont des enfants, des adultes, enfin des gens qui avaient, je crois, entre 3 ans et 87 ans, il me semble. Donc voilà, des interviews, des petites scénettes vidéo, parfois je demande aux gens de porter un masque, ou de se fabriquer son masque d'ailleurs, et puis de gesticuler face à la caméra. Parfois, il s'agissait de faire du son. Enfin, ça pouvait être si quelqu'un joue. Moi, j'aime bien réagir. En fait, tous ces projets, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Donc, je construis un matériau avec des gens. Ça peut être de l'interview comme de la vidéo. Si je rencontre un musicien dans le public, je vais lui demander de me faire quelques notes. Et puis, je vais capitaliser tout ce matériau, là, l'entasser. Et puis, à un moment donné, je me retire. Un second temps, je m'isole pendant plusieurs mois, et je sculpte en quelque sorte ce matériau pour en faire une œuvre. Donc là, je vais mettre un petit extrait sonore d'Ornod Toupi, qui est l'installation, qui était présentée d'ailleurs à la Maison des Métallos le mois dernier, dans le cadre d'Immatériel.
Dans le cadre de Futur en scène à Paris.
Voilà.
Là, le chargement se fait un petit peu attendre.
L'adulte qu'on devrait devenir est à l'intérieur de l'enfant.
Je sais pas si je regrette pas d'être devenu adulte.
C'est ça commence dans les larmes aussi. Je pleurais comme une madeleine. Je me souviens que j'étais dans le jardin et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que ma mère ne voulait pas m'emmener. C'est mon premier souvenir. 3 ans et demi, 4 ans.
Le monde va vite, les choses me paraissent très vite électrocutées, survoltées, superficielles. J'ai du mal à suivre le rythme.
L'univers adulte est lié à des impossibles.
Il fallait toujours que je fasse des efforts pour m'intégrer ou que je trouve des ruses pour réussir à rentrer dans le groupe, à rentrer dans les jeux. Alors c'était violent, je me souviens avoir pleuré aussi en chez moi, de journées affreuses où j'avais été complètement mise sur la touche.
Des enfants qui avaient été placés, qui avaient été abandonnés par leurs parents.
Chaque conducteur surpris en flagrant délit de bonne conduite se verra remettre une plaquette de 100 grammes de chocolat.
Peut-être qu'on meurt adulte, mais c'est même pas sûr.
Mais aujourd'hui, ce qui reste de mon personnage n'a plus rien à voir avec l'enfance.
L'enfance, pour moi, ça a été déjà assumer d'autres personnes.
Donc en fait, cette installation Ornotopie, comme on l'entend là, c'est des gens qui s'expriment justement sur leur enfance. Et sur qu'est-ce que c'est qu'être adulte, voilà. Et donc j'ai tous ces témoignages et le spectateur est dans une boîte noire avec trois grands écrans, 4x3, beaucoup de sons qui l'entourent, et il est dans une situation un peu de rêverie comme ça où il peut se projeter lui-même et revenir à sa propre enfance et à ce qu'il est aujourd'hui, voilà, en deux mots.
Donc Ornotopie date de 2007. Votre dernière œuvre visible, c'est Ornotopie Suite, qu'on peut voir en ligne depuis un mois. Quels sont les projets
sur le site d'Arte, pardon.
Sur le site d'Arte, bien sûr, oui, pardon. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, Nicolas Claus?
Alors en ce moment, il y a différentes choses, mais vraiment aujourd'hui, là, d'ailleurs demain matin, je repars parce que j'ai beaucoup de tableaux à finir là, sur un travail que je fais encore en résidence à l'Espal, alors, avec notamment Alan qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un travail, donc cette fois j'ai continué comme ça à créer un matériau toujours avec un groupe d'adolescents, dont certains qui ont fait le projet de l'Arcy Joué, donc je connais depuis quelques années, forcément, puisqu'on ne parle que de ça depuis des mois, sur ces histoires d'argent, de crise, et au-delà de ça, de liberté, voilà, de consommation, de liberté. Voilà. Et donc ces tableaux vont être en fait sur Flying Puppet. Voilà. C'est la première fois où j'inclus un travail participatif dans cette galerie qui est Flying Puppet.
Cette galerie en ligne, donc.
Voilà. Et donc, certains de ces tableaux, en fait, c'est un autre projet, enfin plusieurs projets, mais un autre qui me tient à cœur, c'est une collaboration avec deux musiciens. Le premier, c'est Jean-Jacques Birger, avec qui on travaille, j'en ai pas encore parlé, et pourtant, on travaille ensemble depuis des années, on a fait beaucoup de projets ensemble, notamment Somnambule, on a co-signé plusieurs tableaux de Flying Puppet. Et là, on travaille, on fait aussi des concerts ensemble où on invite des musiciens. Alors souvent des musiciens qui viennent plutôt de la musique improvisée, comme Didier Petit, par exemple, ou on a joué avec Eric Echampard, enfin plutôt des gens de jazz, musique improvisée. Et là, on va s'associer avec un troisième larron qui s'appelle Sacha Gatineau, qui est musicien, compositeur, sound designer aussi, qui fait notamment les défilés des Semeyake. et qui joue avec beaucoup de petits jouets, des petits sons. Enfin, donc voilà, on travaille tous les trois pour faire des spectacles plus ou moins improvisés, dont certains tableaux qui ont été réalisés justement pendant cette résidence à l'Espal. Et il y en a un, par exemple, qui s'appelle Dolgod, et je pense que nous allons en entendre un extrait.
Absolument. De la pièce sonore Dolgod. On parlait à l'instant de Jean-Jacques Birger, avec qui vous collaborez depuis de longues années. Donc Jean-Jacques Birger, artiste sonore, sound designer, qui vit à Paris. On va lui passer un petit coup de fil pour discuter de votre collaboration. Alors, voilà, je fais fonctionner le téléphone.
Oui.
Allô.
Oui.
Jean-Jacques Birger.
Oui.
Oui, Nicolas Claus à l'appareil.
Bonjour Nicolas.
Comment allez-vous?
Je vais bien, je t'écoute depuis le début de l'émission, mais j'ai écouté Pop Sonics en fait une partie de l'après-midi par une visite au commissariat de police pour un petit problème que j'ai réglé, mais sinon ça va très bien.
Bon, écoute, et l'expo s'est bien passé hier?
Ouais, c'était aux Arts Déco, ouais, c'est super, il y avait un monde fou, l'inauguration était très bien pour le Nabas Mob avec Antoine Schmitt, ouais, c'était super.
Bon, excellent. Écoute, là, j'ai mis. On a passé, donc tu l'as entendu, en fait, un petit extrait de Dolgod, qui est un titre provisoire, oui. D'ailleurs. Et puis, voilà, donc je voulais t'appeler parce qu'on travaille ensemble depuis des années. Et que, voilà, comme on va faire plein de choses encore ensemble, je voulais que tu en parles un petit peu, quoi.
Ouais, bah, c'est-à-dire qu'on avait commencé avec des modules Internet, on est passé aux installations, et puis en fait, on a envie de jouer ensemble. Parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec mes potes et de jouer, parce qu'on dit jouer de la musique, et continuer à, comme tu fais avec tes jouets, quoi, toi aussi de ton côté, Donc l'idée, c'est de faire c'est de faire du live, c'est de jouer ensemble et de trouver cette émotion de l'instant que le spectacle vivant permet. C'est chaque fois de trouver des nouveaux terrains si où on peut continuer à s'amuser, parce qu'Internet c'est un peu mort. Plus beaucoup d'espace de, ça devient un espace de service et de commerce et plus beaucoup artistique par rapport à quand on a commencé. Donc on se sent un peu seul.
Excuse-moi Jean-Jacques, mais ne dis pas Poptronix qu'Internet c'est mort, là, parce que ça va la foutre mal.
On va pas aimer ça du tout.
Non, bah oui, non mais c'est pas du commerce, mais c'est un service vachement important, hein, Poptronix.
Ouais. Et enfin voilà, le peut-être sur...
Tu vois, ils font de la radio aujourd'hui, alors bon.
Oui, c'est vrai.
Oui, on fait beaucoup de choses. On a même fait un Pop Lab qui est notre magazine en PDF avec vous, Jean-Jacques Berger, là, il y a quelques mois.
Oui, absolument.
Voilà, qui est toujours consultable en ligne sur poptronix.fr.
Et si tu devais présenter notre camarade Sacha, à part le fait qu'il avale les instruments de musique, enfin, tu peux en parler d'ailleurs.
C'est le seul musicien que je connais qui a réussi à avaler un instrument de musique, mais qui l'a rendu le lendemain. Il était petit, hein, mais on faisait un duo de zouzou et je lui ai dit tu sais c'est dangereux, on risque de l'avaler. Il m'a dit non, puis quelques secondes après il a dit je crois que je viens d'avaler mon zouzou. Et voilà, et c'est un petit instrument très rigolo qu'on met dans la bouche évidemment, et il faut souffler plus qu'aspirer. Mais ben oui, il c'est un rythmicien, ce qui me plaît bien parce qu'il me donne une liberté que j'ai pas avec d'autres, c'est-à-dire que souvent c'est moi qui m'y colle. Alors que là, c'est lui qui s'y colle pour toutes les rythmiques, par exemple, et ça me donne une grande liberté d'improvisation. Lui, il est moins improvisateur, mais ça va le devenir. Il va s'y mettre, c'est un peu comme toi aussi, à gérer le temps, quoi, parce que le spectacle vivant, c'est apprendre à gérer la durée, les structures, etc. C'est, et puis, continuer à travailler dans l'esprit de complémentarité entre le son et les images, comme on le fait tous les deux déjà. Puis là, de le faire à trois, on l'a déjà fait à plus nombreux aussi. Mais on s'entend particulièrement bien avec Sacha parce qu'il est marrant, parce qu'il est à l'écoute, il fait plein de propositions et on s'ennuie pas. Et je crois qu'en général, ça marche souvent quand on fait des choses pour se rencontrer au lieu de se rencontrer pour faire des choses. Et je crois qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie de travailler, mais je suis tellement content de vous voir tous les deux que on travaille.
Bah, de toute façon, tu sais bien qu'on vient pas pour travailler, hein. On a pour faire la fête.
Oui, c'est vrai.
On a mangé.
On
ne
peut pas tout raconter à l'antenne.
C'est non, bien. C'est vrai. Bon, on reprendra ça hors antenne, parce que je crois qu'on m'annonce que c'est la fin du temps, c'est ça ?
Oui, oui, oui. On va laisser Jean-Jacques Berger derrière son écran pour écouter la fin de cette émission. Merci Jean-Jacques Berger d'avoir été avec nous depuis Paris.
Bah oui, vous êtes bien loin, mais bon, c'est une bien belle ville et je vous envie pour le dîner de ce soir et les bonnes bières que vous allez... pouvoir vous enfiler.
On boira ta santé.
Ah, ça, c'est sympa. Je t'embrasse, Nicolas, t'embrasse Adé, et bonjour à tout le monde, à Annick et à toute l'équipe de Popsonic.
Ça marche. Au revoir, Jean-Jacques. Merci.
Salut.
Merci, Jean-Jacques Berger. Alors, une petite précision. Jean-Jacques parlait au début de son intervention d'une exposition. Il s'agit de l'exposition Musique en Jouée qui vient juste de débuter au Musée des Arts Décoratifs de Paris et qui court jusqu'au 8 novembre. Et c'est une exposition dans laquelle il présente une installation qu'il s'appelle Nabat's Mob, qu'il a conçue avec Antoine Schmitt et qui fait suite à son opéra pour 100 lapins communicants qu'on a pu voir notamment à la Nuit Blanche et qui tourne un peu partout depuis.
Et qui n'a pas fini de tourner.
Et qui n'a pas fini de tourner, oui, c'est à voir. Une petite question secrète, tiens, pour terminer cette émission, puisqu'on approche malheureusement de la fin.
Je voudrais bien poser une question, mais soudain, je me rends compte que ce morceau a des pouvoirs magiques. Par un système très complexe, il utilise les ondes radiophoniques et les fréquences des battements cardiaques de Nicolas Klaus. Nicolas Klaus va pouvoir alors faire un vœu qui se réalisera. Il peut le dire s'il veut à haute voix.
Voilà, c'était une question secrète chantée par la formidable Anne Laplantine qui vous demande donc de faire un vœu en direct sur Popsonics.
Alors, c'était pas du tout préparé. C'est un peu la question piège. Faire un vœu pour qui ? Pour soi, pour les autres, pour le monde, pour la planète. Souhaiter que les Berlusconi et autres personnes du genre disparaissent. Souhaiter que les gens soient plus heureux, moins opprimés. Voilà, je pense que ça va dans ce sens-là, s'il y avait un vœu à faire. Pas de faire plus d'expos, ça, on s'en fout. Hein.
Merci beaucoup, Nicolas Clauss. Voilà, Radio Axe est terminé.
Merci à vous.
On peut donc voir l'installation White Vibes à l'atelier des FUCAM, ici à Mons, pendant un mois. Quant à nous, on se retrouve demain avec un nouveau rédacteur en chef invité. Ce sera Sébastien Roux, dont le travail est d'ailleurs lui aussi présenté à l'atelier des FUCAM. Restez connectés, tout de suite à venir par Mons et par Vaux, le magazine de Popsonics Radio, Radio Création Éphémère, avec des reportages sur les installations qu'on peut voir et entendre ici à CitySonics. Et des invités présentés par l'immarcessible Jean-Philippe Renoux.
C'est assez difficile de vendre une station de radio. C'est plus compliqué qu'on le pense. Pour la bonne raison, le poste de radio appartient à l'État. L'État, c'est vous. L'État, c'est moi. Puisque l'État, c'est vous et l'État, c'est moi, je ne peux pas vous le vendre. Puisque ça nous appartient. Donc, je vais vous le donner. Et je vous le donnerai gratuitement. Car c'est très très difficile de vendre une station de radio.
Fair bread.